CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans Entrepreneur de légende, le podcast qui vous raconte le parcours des personnalités les plus emblématiques qui se cachent derrière les grandes réussites du monde de l'entreprise. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média, et je suis accompagné de Sylvain Bersinger, économiste chez Asterès et auteur de la série de livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Salut Mickaël.
Alors aujourd'hui Sylvain, le personnage que nous allons aborder est sûrement l'un des plus complexes que l'on ait eu à traiter. Et en plus, il est devenu complètement, relativement oublié, quasiment inconnu par nos générations, alors qu'il a été l'homme le plus riche du monde. Il a révolutionné la sidérurgie, mais pas que, et a un parcours complètement fou qui le rend fascinant. Découvrons ensemble l'histoire d'Andrew Carnegie, que je vais surnommer l'homme d'acier.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
Alors Sylvain, l'histoire d'Andrew Carnegie commence en 1835 dans une petite ville écossaise.
Oui, en effet, Andrew Carnegie est né, donc, comme tu l'as dit, en 1835 à Dunfermline. Je ne sais pas si je le prononce très bien, mais enfin bref, une petite bourgade écossaise au nord d'Édimbourg.
Excusez-nous les Écossais, si vous êtes
écossais. Oui, voilà, si vous avez été choqués par ma prononciation. Donc il naît dans une famille, de la petite bourgeoisie. Donc son père a une petite usine de tissage, mais une usine qui va être ruinée en fait, par la révolution industrielle naissante. Puisque avec l'invention de la machine à vapeur, le métier à tisser va être en fait standardisé, mécanisé, et le petit atelier du père d'Andrew ne parvient pas à suivre cette évolution technologique et fait faillite.
Oui, parce que la révolution industrielle, ça n'a pas trop fait de cadeaux, quoi.
Voilà, donc comme tout changement, bouleversement technologique, les entreprises qui n'arrivent pas à s'adapter, n'arrivent pas à suivre, eh bien, sont condamnées à la faillite. C'est la fameuse destruction créatrice de Joseph Schumpeter. Donc, en fait, disons l'enfance d'Andrew Carnegie, c'est plutôt celle d'une glissade sur l'échelle sociale, puisque donc son père était un petit entrepreneur, hein, il était modeste, on dirait aujourd'hui un patron de PME, mais il se retrouve ruiné, hein, il fait faillite, donc la situation financière de la famille est assez complexe. Donc son père était un grand promoteur de ce qu'on appelait à l'époque le chartrisme, qui était une doctrine sociale en faveur des droits des ouvriers, en faveur des droits de vote, on dirait aujourd'hui une doctrine de gauche, qui n'était pas forcément très bien vue de la bourgeoisie locale, ce qui ne l'a pas aidé à rebondir. Donc la situation familiale devient vraiment difficile, critique. Sa mère essaie d'ouvrir une petite échoppe dans la maison pour gagner un peu d'argent, mais enfin, c'est très modeste.
Sa mère qui, elle, a de plus grandes ambitions pour la famille que le
voilà,
père.
Sa mère, elle est pas du tout sur les opinions politiques de son mari. Elle est très conservatrice, tradition, la famille, l'ordre, l'enrichissement par le mérite, le travail, etc. Donc, disons que c'est assez intéressant de voir ce tiraillement un peu sur les opinions politiques, on pourrait dire, de ses parents, que d'une certaine façon, on va retrouver tout au long de sa vie. C'est un peu, comme tu l'as dit dans l'introduction, ce qui est fascinant avec ce personnage, c'est qu'il est à la fois très à gauche et très à droite, disons. Il fait un peu un grand écart, un peu complexe.
Et donc, il est au milieu de ses deux parents et en parallèle, rien ne laisse penser dans sa jeunesse qu'il va avoir une grande carrière, ce petit Andrew.
Non, c'est vraiment un jeune Écossais, on pourrait dire totalement banal. Hein. C'est pas du tout un génie scientifique. On pense à Thomas Edison qui, dès l'enfance, bouillonnait d'idées, avait des fulgurances. Il est scolairement, disons, banal. Il n'a pas particulièrement d'ambition. Il ne s'intéresse pas particulièrement aux affaires. Donc, non, c'est vraiment un jeune Écossais comme il y en a dans toute l'Écosse. Et rien ne le prédestinait, en effet, au parcours qu'il a connu.
En 1848, donc pour survivre, toute la famille Carnegie décide de quitter l'Écosse.
Oui, donc comme ça se faisait beaucoup à l'époque, on allait en Amérique essayer de chercher une vie meilleure. Donc les Carnegie avaient une tante, enfin une relation familiale installée à Pittsburgh, donc qui était un grand centre industriel et donc créateur d'emplois. Donc ils vendent un peu tout ce qui leur restait comme bien pour payer le billet et ils partent donc aux États-Unis à la recherche d'une vie meilleure. Donc il s'installe à Pittsburgh. Donc le jeune Andrew, à l'époque, bon, il a autour de 13 ans. Il n'est plus question d'aller à l'école, il faut travailler, il faut gagner de l'argent.
Et à donc, 13 ans.
Voilà, à 13 ans.
Il arrive dans un nouveau pays et il doit se mettre à travailler.
Voilà, il quitte l'école, il trouve un premier métier donc dans une usine de tissage, justement, une usine mécanisée. Donc il transporte du charbon pour faire tourner la machine à vapeur.
Ah, c'est cool comme premier
voilà,
boulot.
Voilà, on se doute que c'est très fatigant et pas très bien payé. Donc il cherche autre chose et il parvient à trouver un métier de télégraphiste. Donc en gros, ils livrent des télégraphes dans la ville en vélo. Donc c'est toujours très mal payé, mais en tout cas, c'est à l'air libre.
C'est toujours fatigant aussi à vélo.
C'est fatigant, mais disons que c'est un peu plus sympathique. Et surtout, ça lui permet de rencontrer du monde, puisqu'ils livrent des télégrammes donc aux personnes influentes de Pittsburgh, aux hommes d'affaires, et il se rend assez vite compte qu'il a là une opportunité très importante via les contacts qu'il peut nouer, essayer d'attirer l'attention de certains capitaines d'industrie.
Il se fait son carnet d'adresse.
Voilà, il a cette intelligence, il a 14-15 ans à cette époque-là, il a cette intelligence de comprendre que tous ces gens influents et riches à qui livrent des télégrammes, eh ben, ça peut être une marche, ça peut les aider à améliorer sa condition, puisque la famille, c'est vraiment une famille d'ouvriers immigrés très pauvres, hein, c'est vraiment des conditions difficiles.
Et donc il s'attelle à faire son travail du mieux que possible pour être bien vu.
Voilà, donc il essaie de bien faire son travail, d'être toujours très présentable, très ponctuel, bien habillé, etc., pour essayer d'attirer l'attention de personnes influentes qui pourraient être intéressées par embaucher un jeune ambitieux. Et c'est ce qui va se passer.
C'est ce qui arrive.
C'est ce qui arrive, voilà. Il attire l'attention d'un certain Thomas Scott, qui à l'époque dirige la Pennsylvania Railroad, donc une société de train, de transport ferroviaire. Donc à l'époque, le train, c'est vraiment le moyen de communication absolument essentiel, hein, au 19e siècle. Et donc ce Thomas Scott va un peu le prendre sous son aile, lui donner des premières opportunités, donc l'embaucher dans sa société.
Et, donc il fait le même travail, mais dans une société... Voilà, un peu mieux payé peut-être.
Voilà, il commence donc télégraphiste, hein, il commence au bas de l'échelle et très vite, parce que il est ambitieux, il est travailleur, il sait bien construire sa carrière. Il va grimper les échelons de cette société, donc il va devenir ce qu'on appellerait cadre, puis cadre supérieur et assez vite. Très jeune, en fait, il devient un des cadres importants de cette société ferroviaire.
Un des cadres en vue, en plus, il faut dire qu'il est assez lié avec Thomas Scott, qui va l'aider notamment à faire des bons placements.
Oui, donc Thomas Scott le prend un peu, disons, sous son aile. Il y a probablement une sorte d'amitié ou de relation un peu père-fils qui se noue entre eux. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc les transports ferroviaires étant le moyen de transport clé pour les passagers et pour l'industrie, ceux qui dirigent les sociétés ont des informations privilégiées sur le cours du charbon, le cours des minerais, etc. Et ils en profitent pour faire des placements, des spéculations juteuses.
Entre eux,
voilà. Et donc Andrew Carnegie bénéficie de ses conseils et commence à faire ses premiers investissements, ses premiers placements, ses premières spéculations qui sont juteuses et fructueuses. Et donc assez vite, en fait, il va s'enrichir.
Donc c'est un cadre en vue. Il commence à avoir un petit peu plus d'argent. Il a environ 30 ans. Mais en 1861, c'est la guerre de sécession.
Oui, c'est la guerre de sécession. Et pour les sociétés de transport ferroviaire, ben, c'est une aubaine.
Ah, opportunité.
Voilà. Donc Andrew Carnegie, qui a à ce moment-là, en 1861, une bonne aisance financière, donc paye quelqu'un pour aller faire la guerre à sa place, hein, ce qui était très commun à l'époque. Hein, Rockefeller avait fait pareil.
On l'avait déjà vu, oui, dans le podcast, voilà, Rockefeller.
Aujourd'hui, ça nous choque un peu, mais à l'époque, c'était totalement logique que les riches payent un pauvre pour aller faire la guerre à leur place et ne pas être appelés sous les drapeaux. Donc lui, il continue à travailler dans la société ferroviaire. Et évidemment, avec toute la logistique qu'implique une guerre, eh bien, il y a beaucoup d'activités pour les sociétés de transport ferroviaire. Thomas Scott devient même le responsable pour toutes les armées du Nord de la logistique, donc il a un poste très important au gouvernement, et donc ça, disons, ça propulse encore plus la carrière d'Andrew.
Et donc du coup, pendant la guerre, il va un peu plus évoluer. Il faut dire qu'à la fin de la guerre, il aura dans la société une très bonne place, mais lui, il a une ambition encore plus grande.
Oui, donc c'est devenu à la fin de la guerre, disons, un cadre supérieur, très bien payé, en vue, mais il n'a pas envie de rester salarié toute sa vie. Il a de l'ambition, il a pris un peu de la bouteille et l'ambition lui est venue et il veut créer sa propre société. Donc une société qui va créer dans l'acier, parce que en fait il a disons diagnostiqué une faiblesse dans les transports ferroviaires, dans les ponts, donc les ponts qui à l'époque étaient faits en bois,
oui.
Donc pas très solides, et lui il se dit les ponts il faut pas les faire en bois, il faut les faire en poutre d'acier. Et donc ça.
Ah oui, à l'époque il y avait pas de poutre d'acier dans les ponts, enfin très peu.
Les premiers, hein, quand on regarde les westerns, les attaques des Indiens, etc. Souvent c'est des ponts en bois, hein, puisque quand on construisait des lignes ferroviaires au fin fond de nulle part aux États-Unis, le matériau qu'on avait sous la main c'était le bois. Et évidemment le bois est bien moins solide et bien moins durable pour soutenir les ponts que l'acier. Et donc, il crée avec son frère en 1865 une première société qu'il appelle la Keystone Bridge Company. Hein, donc, bridge, le pont. Hein, il y a bien le nom du pont, le nom de l'objet qu'il veut construire dans le nom de la société.
Et donc, il a créé avec son frère Thomas.
Il a créé avec son frère, voilà, qui était aussi parti aux États-Unis. Donc, il commence à faire des poutres métalliques pour les ponts, mais très vite, ils font autre chose. Hein, ils font des rails pour les trains, ils font des poutres pour les premiers buildings qui commencent à se construire. Donc, très vite, la société va s'étendre dans tous les domaines de l'acier, en fait.
Et mais rapidement, évidemment, ça va être le succès.
Oui, alors c'est le succès. Alors au début, rapide, mais encore modeste au vu de la carrière future d'Andrew Carnegie. Ce qui va vraiment donner un coup d'accélérateur, c'est un voyage en Angleterre. Donc il retourne momentanément en Angleterre et il découvre le procédé d'un certain Henry Bessemer, qui en fait, alors je serais incapable d'expliquer scientifiquement à quoi ça consiste, mais en gros c'est un procédé qui permet de fabriquer de l'acier de bien meilleure qualité à bien moindre coût, qui fera d'ailleurs la richesse donc entre autres de Bessemer, mais aussi de la ville de Sheffield en Angleterre, qui est la capitale de l'acier anglais, un peu comme Pittsburgh va devenir grâce à Carnegie la capitale de l'acier américaine. Et donc quand il revient aux États-Unis, il applique les procédés de Bessemer à la fabrication, ce qui lui permet d'avoir des produits. En fait, il est le seul sur le marché américain pour l'instant à appliquer ces procédés-là. Donc des produits de meilleure qualité à moindre coût. Et il va bénéficier, on va dire, de la taille du marché américain, qui est absolument immense. Hein, construire des lignes de chemin de fer aux États-Unis, c'est des montants colossaux. Et donc, il va réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle, c'est-à-dire produire en très grande quantité des produits standards, des poutres d'acier standardisées, et donc casser les coûts. En fait, il va faire à l'acier ce que Ford fera 50 ans plus tard à la voiture, à peu près. Et donc là, c'est vraiment un succès absolument énorme. Et c'est là qu'il va devenir, effectivement, à terme, l'homme le plus riche du monde.
Donc petit à petit, avant d'être l'homme le plus riche du monde, il commence à avoir une vie, un peu une vie de pacha, et notamment avec sa mère.
Oui, donc il a une vie privée un petit peu, on pourrait dire, originale. Il s'est marié très tard, il a une fille très tard, et il va vivre donc avec sa mère. Donc son père est mort entre-temps, avant qu'il ait pu s'enrichir.
Donc il est mort dans la pauvreté, son père.
Il est mort dans la pauvreté, oui, son père, en effet. Et donc lui va vivre avec sa mère, notamment ils vont déménager à New York, dans des splendides appartements, dans les meilleurs hôtels, un peu comme un vieux garçon, en fait, avec sa mère.
Il a offert un peu à sa mère la vie dont elle rêvait.
Voilà. Donc sa mère, qui avait toujours été désireuse d'ascension sociale et de respectabilité sociale et d'enrichissement, il va lui offrir ce train de vie dont elle rêvait, et il va pouvoir satisfaire ses ambitions, ses désirs d'ascension sociale.
Avant de parler de la suite du succès, j'aimerais qu'on s'attarde 2 minutes sur un drôle d'engagement qu'il a pris à 33 ans pour voir un peu le portrait un peu ambivalent de ce personnage.
Oui, alors c'est vrai que pour l'instant, on a parlé de sa réussite. Andrew Carnegie, c'est quelqu'un qui s'est toujours posé beaucoup de questions sur la société dans son ensemble. C'est vrai qu'autour de la trentaine, il avait pris l'engagement. Il s'était dit, moi je travaille encore 2 ans, je gagne encore beaucoup d'argent, après j'arrête, je prends ma retraite et je m'occupe d'œuvres sociales et autres. Alors évidemment, il ne l'a pas fait, hein, il a continué,
il a continué à
travailler. Mais il y a vraiment une réflexion chez lui, il va écrire quelques articles aussi, qui est toujours un petit peu ambivalente. C'est-à-dire que d'un côté, il va prôner la redistribution des richesses, le fait que les patrons doivent prendre soin de leurs ouvriers, etc. D'un autre côté, il va prôner une sorte de darwinisme social, c'est-à-dire en gros, les plus riches sont riches parce que c'est les meilleurs, et puis les plus pauvres qui se débrouillent, parce qu'en fait, s'ils sont pauvres, c'est qu'ils ne sont pas productifs. Donc en fait, dans ses réflexions et dans ses propos, il y a en fait toujours une ambivalence qu'on retrouve un peu dans toute sa vie. D'un côté, on va dire, très social, très à gauche, et d'un autre côté, un libéralisme absolu et froid et prêt à écraser l'ouvrier sans aucun scrupule.
Et on en parlait au début du podcast, c'est un peu ce qu'il retrouvait à table chez lui, entre son père et sa mère.
Voilà, c'est un petit peu le tiraillement. Alors, on ne va pas faire de la psychologie de comptoir, mais
ouais,
c'est,
on a le temps.
C'est un peu le tiraillement, effectivement, qu'il y avait dans les débats familiaux dans son enfance.
Le pays, petit à petit, se transforme, notamment grâce à son acier.
Oui, donc le fait qu'il y ait de l'acier pas cher et de bonne qualité, ça va permettre notamment les buildings, les gratte-ciels. Hein, les gratte-ciels de Chicago et New York n'auraient jamais été possibles sans cet acier bon marché et de qualité. Ça va permettre des ponts, le pont de Brooklyn, hein, le célèbre pont de Brooklyn qu'on a tous vu sur des photos, même si on n'est pas allé à New York. Donc il est fait avec l'acier d'Andrew Carnegie. Ça va permettre des bateaux avec des coques d'acier, donc des bateaux beaucoup plus solides.
Ah oui, avant c'était en bois les bateaux.
Avant c'était en bois, hein, après ça va être en acier. Donc voilà, c'est vraiment une modification Bon, alors bien sûr de Pittsburgh qui devient la première ville au monde pour ce qui est de la production de l'acier, mais c'est vraiment une transformation qui va aller bien au-delà. Donc on se retrouve dans le transport maritime ou ferroviaire, qu'on retrouve dans l'architecture aussi.
C'est un truc de fou parce que on a complètement, quasiment oublié le nom de Andrew Carnegie, mais en fait on voit encore son acier.
Oui, son acier, ou en tout cas ce qu'a permis son acier, disons. Sans Andrew Carnegie, il n'y aurait certainement pas eu autant de buildings à New York et Chicago.
Et donc la société continue de grandir jusqu'en 1892 précisément.
Oui, en 1892, Andrew Carnegie s'associe avec un mania du charbon, donc Henry Clark Frick, qui comme lui avait grandi dans la pauvreté et avait bâti un empire, donc lui, dans le charbon. Le charbon, il faut rappeler, c'est très important pour faire l'acier, parce qu'il faut chauffer le minerai et donc il faut énormément de charbon pour faire de l'acier.
Ils sont complémentaires, quoi.
Voilà, ils sont complémentaires dans la chaîne de production. Et donc, ils s'associent pour fonder la Carnegie Steel Company, donc la société de l'acier de Carnegie, donc en 1892. Et ça devient un immense trust qui contrôle, alors à la fois, on a dit, le charbon, l'acier, mais qui va contrôler les péniches pour apporter l'acier, qui va contrôler les trains, parce qu'ils ont aussi investi dans des sociétés de transport ferroviaire, qui va contrôler même des canaux entiers. Enfin, c'est vraiment un trust absolument gigantesque, un peu à l'image de ce qu'a fait Rockefeller dans le pétrole.
C'est l'évolution finale de sa compagnie, quoi.
Oui, d'une certaine façon, ça devient une entreprise absolument gigantesque qui n'hésite pas à écraser ses concurrents ou à les racheter ou à les dénigrer.
Ah oui, tous les coups sont permis avec les concurrents.
Absolument, tous les coups sont permis. Là, c'est le Far West des affaires. Donc, il rachète ou il pousse à la faillite ses concurrents ou les entreprises qu'il gênerait. Et il parvient à construire absolument un empire de l'acier, du charbon et de l'industrie lourde en général.
Et pour lui, c'est facile parce que comme il est vu comme le visage un peu universel de l'acier, il peut dire qu'une société n'est pas bonne, tout le monde va entendre ça.
Voilà, des fois, il dénigre des sociétés en disant leurs produits, de toute façon, ne sont pas bons. Et alors, bien sûr, lui, c'est un peu le gourou de l'acier. Donc, s'il dit l'acier d'un tel n'est pas bon, bah, tout le monde va avoir tendance à le croire. Et les autres sociétés font faillite, ou alors elles sont en difficulté, puis ils les rachètent pour une bouchée de pain. Donc oui, c'est un homme d'affaires vraiment dur, quoi, sans scrupules, hein, il n'hésite pas à écraser la concurrence.
Et malgré son image de patron un peu social, il traite très durement ses salariés aussi.
Oui, alors il traite très durement ses salariés, surtout c'est son associé Frick, qui gère la société plutôt au quotidien, alors qu'il, lui, est un patron très traditionnaliste, hein, qui assume totalement sa poigne de fer, ou sa poigne d'acier, pourrait-on dire. Donc c'est vrai que là, on est un peu au cœur de la contradiction de Carnegie, qui fait des grandes déclarations sociales sur le fait qu'il veut donner sa fortune aux pauvres, etc. Dans sa société à l'époque, on travaille 12 heures par jour, tous les jours, sauf le 4 juillet pour la fête nationale.
Ah, ça va, un jour de repos,
voilà,
par année.
Repos par an, quand on fait 12 heures par jour à pelleter du charbon, voilà, pour des salaires évidemment de misère. Donc il y a, on s'en doute, des grèves, des protestations. Les ouvriers tentent de se syndiquer, évidemment, les patrons ne sont pas d'accord. Frick n'hésite pas à embaucher des milices privées, à envoyer la police. Donc c'est des conflits sociaux très, très durs. Et évidemment, Carnegie est pointé du doigt puisque d'un côté, il fait des grandes déclarations sociales et de l'autre, les ouvriers dans son usine sont un petit peu écrasés à la moindre contestation. Donc on retrouve ce tiraillement de Carnegie et vraiment les deux visages du personnage, en fait.
Et ça, c'est important de le dire, l'image de Carnegie est autant détériorée en interne dans ses sociétés qu'en externe.
Oui, alors c'est aussi l'époque, là on arrive fin 19e siècle, début 20e siècle, c'est l'époque de ce qu'on appelait aux États-Unis les barons voleurs. Donc c'est ces très grands capitaines d'industrie, donc Carnegie dans l'acier, Rockefeller dans le pétrole, Vanderbilt dans le transport ferroviaire, ou Stanford, JP Morgan dans la banque. Donc une quinzaine de très grands patrons américains qui ont en fait des monopoles, qui sont richissimes, et qu'on a appelé les barons voleurs, donc ils sont très dénigrés, traînés dans la boue par les caricaturistes, etc. Parfois à juste titre, hein, on l'a dit, Carnegie et d'autres n'ont pas trop de scrupules pour écraser la concurrence et s'enrichir. Et donc il y a, début du XXe siècle, une critique très forte aux États-Unis. Dans le cas de Rockefeller, ça va conduire au démantèlement de sa société d'ailleurs.
À 65 ans, il pense à la retraite.
Oui, donc il pense à la retraite et il a une proposition en 1901 très intéressante du très grand banquier JP Morgan qui, lui, a dans l'idée de fusionner un peu toutes les grandes sociétés de l'acier de l'époque pour en faire un énorme, une société encore plus grande de l'acier. Et donc, en 1901, Carnegie vend sa société à JP Morgan, à cette sorte de fusion, qui va s'appeler donc US Steel. Et ça fait de lui, au moment où il vend ses actions, la valorisation de ses actions, fait de lui l'homme le plus riche du monde de l'époque, et selon certaines estimations, parce qu'il y a une part d'approximation là-dedans, peut-être même l'homme le plus riche de tous les temps. Donc on peut estimer qu'il aurait aujourd'hui à peu près 400 milliards de dollars. C'est à peu près le double de Jeff Bezos, selon ça fluctue fortement selon les cours de la bourse. Mais
bon, il était à l'abri, quoi.
Il était à l'abri du besoin, on va dire ça comme ça.
Donc, à l'époque, c'est l'homme le plus riche du monde et il mène une retraite de philanthrope.
Oui, donc arrivé à la retraite, il va enfin, pourrait-on dire, mettre ses actes en cohérence avec ses discours. Et il veut donc donner l'ensemble de sa fortune à des œuvres caritatives.
L'ensemble.
Ou alors il laisse quelques miettes pour sa fille, mais enfin c'est des miettes à la Carnegie, donc ça fait des belles miettes.
Oui.
Mais effectivement, il va financer alors des réseaux de bibliothèques, il va financer l'université de Pittsburgh, hein, qui est encore aujourd'hui une université très célèbre. Il va financer le Carnegie Hall à New York, la célèbre salle de concert. Il va financer le Palais de la Paix à La Haye, qui est aujourd'hui la Cour de justice internationale.
Ah oui, très connu.
Voilà, et donc, bon, on pourrait en citer, il y en a vraiment énormément. Et
pourrait faire un podcast entier là-dessus.
Oui, on pourrait faire, mais bon, ce serait un peu une liste, un inventaire un peu fastidieux. Mais voilà, il va en fait donner énormément d'argent, et en fait, il avait tellement d'argent à donner qu'il n'a pas eu le temps de tout donner à sa mort en 1919. Donc il y a une fondation qui existe toujours et qui s'occupe toujours de gérer sa fortune.
Donner de l'argent encore.
Voilà, donc c'est les intérêts de ces placements.
Il était vraiment riche quand même.
Oui, bah voilà, 400 milliards de dollars, ça fait un beau paquet.
Une sorte de suite de son empire existe toujours.
Voilà, US Steel existe toujours. Hein. Alors à l'époque, début du XXe siècle, c'était de très loin le premier producteur d'acier au monde. Alors aujourd'hui, c'est autour du 26e producteur d'acier au monde. Donc il existe toujours, mais il a un peu, disons, perdu de sa superbe. Et aujourd'hui, les grands producteurs d'acier au monde, hein, c'est les Chinois, c'est plus les Américains, puisqu'ils ont besoin d'énormément d'acier pour fabriquer à leur tour leur building, leur ligne de TGV, etc. Donc US Steel existe toujours, mais un peu, disons, rétrogradé au palmarès.
On retiendra d'Andrew Carnegie, évidemment, une ambivalence excessive, une révolution industrielle et une richesse inimaginable qui le place encore aujourd'hui dans le trio des hommes les plus riches de tous les temps. Merci Sylvain.
Merci à toi.
Sylvain, je rappelle que cette histoire est tirée du dernier tome de ta série de livres Entrepreneurs de légende qu'on peut retrouver aux éditions Henrik B. Vous pouvez réécouter évidemment tous nos épisodes sur CDI Podcast ou alors sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, ça nous fera plaisir. À bientôt.
CDI Podcast. Entrepreneur de légende.